se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans. Et c'est maintenant l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Et je ne suis pas toute seule, car j'ai le plaisir avec... Oui, bonsoir Claude. Oui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi donc mes deux acolytes. Alors Claude, je te disais bonsoir, mais on ne t'entendait pas. Ça sera peut-être mieux maintenant.
Bonsoir.
Ah, c'est mais bien d'entendre ta voix.
Comment ?
C'est bien d'entendre ta voix.
Ouais, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Si, si, je t'entends.
Mais moi, j'ai pas dans le casque.
On t'entend, Claude, on t'entend.
Tu n'entends rien dans le casque ?
Bon, je t'entends pas.
On va voir ça tout à l'heure. Sinon, tu augmentes le bouton du volume, hein, c'est peut-être ça.
Le bouton volume.
Tu es sur la couleur rouge, c'est peut-être ça. Et sinon, avec nous, il y a Gob également.
Bonsoir. Bonjour à tous. Voilà, on est content de vous retrouver après cet été qui a été un peu long pour moi, qui ai travaillé tout le temps. Et heureusement, le cinéma m'a aidé aussi à tenir le coup.
Oui, heureusement pour toi, tes vacances sont bientôt.
Elles arrivent.
Oui, parce que nous, avec Claude, tu as eu des vacances aussi, je crois.
Oui.
Claude se repose de temps en temps. Incroyable.
J'ai surtout des vacances cinématographiques.
Voilà. Oui, tu as.
Ce qui est rare. J'ai pas fait de festival.
Ah, si, non, d'accord.
En ce moment-ci, mais
dans ce sens.
Cet été, pas de.
Pas de festival.
Je suis pas allé à l'USAS. Je suis pas bon.
D'accord. Mais l'étrange festival, c'était quand ?
C'est maintenant.
C'est en ce moment.
D'accord. J'y suis demain.
Ok. Oui, c'est un festival donc à Paris qui a une programmation très particulière sur.
Comme son nom l'indique, c'est le festival des films de l'étrange. Donc c'est beaucoup de films de genre, pratiquement tous des films de genre, avec certains films qui sont en première mondiale. Oui. Et d'autres qui sont des films très anciens, qui ne sont pas passés ou très peu dans le grand public.
Et plein de raretés bizarroïdes.
Et oui, moi j'ai vu un film dont Xavier connaît le metteur en scène, un film australien, qui est, alors pour moi j'ai trouvé que c'était un film qui était magnifique, et alors c'est tout en grommelot. C'est en anglais, c'est pas sous-titré, je vais rien comprendre. C'est tout en grommelot.
Et ça veut dire quoi, en grommelot ?
En grommelot, c'est...
C'est du yaourt, ça ?
Comment ? C'est du yaourt.
D'accord.
C'est des grommelots. Donc,
il parle comme ça dans le bush australien.
Comment une secte terrorise la terre entière. C'est un film avec plein de métaphores, plein de symboles.
On le verra jamais en salle. En même
non, on ne le verra jamais en salle, malheureusement. Voilà. Mais c'est un...
Mais c'est la chance que donnent ces festivals-là de voir des films comme ça.
Voilà. Oui, je suis d'accord. Il y a plein de festivals, heureusement, qui permettent de voir ces films exceptionnels et très rares, malheureusement. Oui. Mais donc, n'hésitez pas à aller dans les festivals. Et donc, là, ce festival à Paris, il commence...
Il a commencé déjà depuis 8 jours. Il durait du 5 septembre au 18 septembre.
Très bien. Donc, il reste
encore quelques jours.
Voilà.
Et l'organisateur, Frédéric Tan, organise aussi les Utopias, qui est un grand festival à Nantes.
Oui, exactement.
Et qui aura lieu
au mois de novembre.
Au mois de novembre, d'accord, oui. Ok. Eh bien, j'enchaîne avec notre petite introduction agenda. pas grand-chose, mais juste assez rapidement, quand même, j'ai noté qu'il y avait donc la nouvelle édition du festival de films LGBT+, le festival d'un bord à l'autre, qui est organisé par l'association Cinémundi. Et donc c'est la 14e édition et qui commence le 28 septembre et qui va durer jusqu'au 2 octobre, qui est prévu au cinéma Les Carmes. Et une programmation assez riche d'avant-première aussi, beaucoup de films en avant-première pour cette nouvelle édition. Et puis, ce que j'ai pu noter, j'aimerais quand même mentionner les films qui... il y a deux films, donc déjà aujourd'hui, le film qui est de, Catherine Breillat, l'été dernier, qui a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes, qui est donc sorti aujourd'hui dans les cinémas. Et puis, autre mention, le film de Aki Kaurismäki, Les Feuilles Mortes, qui va sortir le 20 septembre.
Je peux te dire que c'est noté en gros dans mon agenda personnel. Voilà. Je suis tellement grand fan de Kaurismäki. Ça fait tellement plaisir de revoir un film de Kaurismäki. Je crois que le dernier devait remonter à 4 ou 5 ans. Et voilà, quel plaisir de retrouver ce cinéaste rare, élégant, poétique. C'est un cinéma tellement différent, tellement attachant. Quel plaisir de retrouver un film de Kaurismäki sur les écrans.
Oui, je suis d'accord. Surtout que ce dernier film, Les Feuilles Mortes, a reçu le prix du jury à Cannes cette année. Donc ça devrait être une valeur sûre encore. Voilà pour mes quelques dates d'agenda. Eh bien, on va pouvoir commencer, sauf si vous avez peut-être des choses à préciser dans l'agenda. On peut commencer nos chroniques sur les films qu'on a pu voir ces dernières semaines. Et on n'a même pas dit par quoi on allait commencer. Mais Claude, tu as vu Oppenheimer ?
Non, pas encore.
Pas encore. Eh bien, okay, il est apparemment encore à l'affiche.
Il est toujours à l'affiche, oui.
Toujours à l'affiche.
Tu pourras encore
très,
le voir.
Très, très gros succès en salle.
Je pense qu'il y a une séance dimanche soir qui peut effectivement me convenir.
Et j'espère qu'elle est en version originale.
Ah, j'ai pas regardé.
Bon, tu sais que tu t'embarques pour 3h10, hein, Claude. Hein.
Oui, je sais, oui.
Eh bien, on peut en parler. Donc, Oppenheimer, je ne sais pas si... je crois que tout le monde en a entendu parler. Et donc, c'est le dernier film de Christopher Nolan qui a adapté un livre, une biographie sur Robert Oppenheimer, donc une figure historique qui a créé donc l'arme nucléaire. Et donc, Robert Oppenheimer, qui est joué par Cillian Murphy, très grand comédien, impressionnant. Et je commence du coup, Gob,
oui,
après.
Vas-y.
Si je te disais, Claude, si c'est bien en VO, parce que c'est vraiment important, en fait, les conditions de projection. Bon, on le sait, de base, on conseille toujours de voir les films en version originale parce que les doublages sont rarement bon et je vous le dis parce que je l'ai vu deux fois ce film. Il m'a vraiment intéressé.
6 heures d'Oppenheimer.
Ouais.
Incroyable.
J'aime souffrir. J'aime plutôt le bon cinéma qui est bien travaillé et en fait, je l'ai vu dans un multiplex la première fois en IMAX en VF parce qu'il n'y avait que la VF au moment où j'étais disponible. Bref, et c'était catastrophique, la VF. Quand il y avait un personnage allemand, c'était caricatural, c'était atroce. Et aussi, au niveau des conditions de projection, dans le multiplex, j'ai dû mettre mes boules caisses tellement le son est trop fort. Donc, c'était vraiment pas des très bonnes conditions. Je sentais que je passais à côté de quelque chose. Du coup, j'ai eu la chance de le revoir donc au Rex à Paris, qu'il a donc projeté exceptionnellement en pellicule 65 mm, donc dans la version qui a été filmée. Donc le film a été tourné en 65 mm IMAX. Et donc j'ai eu cette chance de le voir, et vraiment, vraiment, ça change beaucoup,
tout,
ouais. Beaucoup bon. De choses.
Alors, je voudrais te poser une question. Pourquoi, toi qui connais le cinéma, pourquoi les producteurs de cinéma ne sont pas plus attentifs au doublage ?
Ah, ça c'est peut-être alors pour des raisons de moyens. Après, pour des grands films, je sais pas parce que il y a certains réalisateurs hein, dont c'est très important et ils suivent de près les doublages. Mais Je sais pas. Après, c'était pas forcément mauvais dans le jeu, mais c'était caricatural. Et ça, je pense que c'est un problème dans notre société. Quand on voit un Allemand, on va tout de suite prendre le ton de la langue allemande en exagérant. Et ça, c'est très visible dans le film. Mais il n'y avait pas vraiment un problème de jeu d'acteur, là, en tout cas. Mais il y avait d'autres problèmes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir en version originale, surtout avec les différentes langues, entre l'américain, l'anglais, l'allemand. Donc c'est bien plus riche, mais ça pour tous les films. Et donc au Rex, vraiment les conditions, mais on voit mieux la profondeur de champ, les contrastes qui sont vraiment mieux retranscrits, et même le son aussi. Le son qui n'est pas du tout agressif, mais qui est vraiment puissant. C'est vraiment visible dans ce film, tout est bien travaillé. Et aussi le noir et blanc, parce que dans le film, il y a des séquences en couleur et en noir et blanc. Et il y a une évolution du noir et blanc qui est vraiment perceptible, mais uniquement dans le cadre de la projection du film en pellicule. Et donc, j'ai eu cette chance de le voir dans ces bonnes conditions. Donc, je vous conseille vraiment de toujours faire attention à où vous voyez les films. Et les multiplexes sont pas toujours les mieux équipés, malheureusement. Donc, sur le film, alors Nolan, il se concentre surtout sur l'état et l'évolution psychologique d'Oppenheimer. C'est vraiment son introspection, son état de conscience de participer à une avancée dans les sciences, dans la physique quantique, mais aussi dans la conscience de créer une arme destructrice. Donc on est vraiment dans ce film, dans cette introspection qui est difficile pour Robert Oppenheimer, mais aussi pour tous les scientifiques de cette époque qui participent à l'opération. Et c'est vraiment, je trouve que c'est intéressant de ce point de vue de percevoir les luttes de pouvoir, l'implication géopolitique des armes nucléaires, la stratégie politique entre les sciences et la guerre. Enfin, je trouve qu'il aborde énormément de sujets autour de l'arme nucléaire et je trouvais que c'était très... très intéressant, très riche et même à la fin, j'ai trouvé que c'était très oppressant d'avoir cette conscience quand on pense aussi à l'actualité et le lien avec les guerres actuelles et puis les risques de l'arme nucléaire. Donc tout ça était très très prenant. Et encore une fois, dans Christopher Nolan, dans tout son cinéma, il y a vraiment un gros travail d'écriture sur le travail de la temporalité qui déroute toujours les spectateurs et les spectatrices. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il prend pas les gens pour des imbéciles. Et même tout le travail de l'image qui est vraiment important. Parce que pour ce film, il crée... J'ai lu qu'il avait créé donc, la première pellicule IMAX en noir et blanc. Donc vraiment, il cherche vraiment à mettre les bonnes conditions dans son travail artistique. Par contre, j'ai trouvé que c'était dommage. Il balaye un peu vite la réaction des scientifiques qui ne veulent pas mettre en application... cette bombe, je trouve que c'est un peu trop vite balayé, alors que c'était aussi vraiment important. Et autre point négatif, la place des femmes. Les personnages féminins, je trouve qu'ils sont simplifiés, ils sont presque caricaturaux. Je trouve que c'est vraiment dommage, alors que c'est des femmes qui ont un métier au-delà d'être autour de Oppenheimer. Je trouve que c'était un peu vite fait. Ça, je trouve que c'était un peu dommage. Et par contre, très beau jeu d'acteur de Robert Downey Jr. qui joue le rôle de Lévi-Strauss, que j'ai trouvé aussi vraiment, vraiment incroyable. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur Oppenheimer, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus court, Céline. Moi, j'ai trouvé que c'était un vrai bon film grand public. Voilà, on sait que Christopher Nolan, il sait faire ça. Le succès public du film prouve qu'une fois de plus, il a touché son but. Moi, en sortant du film, tu vois, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est cette phrase de Montaigne qui a dit au XVIe siècle, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je trouve que ça s'applique tellement bien au film. Alors, tu parlais du débat moral. Moi, je trouvais que le film est très intéressant à ce niveau-là, effectivement, sur le débat moral, parce qu'on est, on a ce personnage d'Oppenheimer qui, en fait, c'est vraiment le savant qui crée et qui veut aller au bout de sa création. Et à un moment donné, effectivement, il met la morale de côté. Et comme tu disais, on voit effectivement d'autres personnes qui travaillent avec lui ou qui ne travaillent pas avec lui, du reste, et qui le mettent en garde, qui lui disent... Et du reste, je pense que le film est très honnête à ce niveau-là parce qu'il montre bien, historiquement, il est assez juste historiquement, et il démontre bien à quel point lancer ces deux bombes n'était pas utile pour gagner la guerre. Ils auraient très bien pu la gagner autrement, juste avec de la dissuasion. Ça, il l'explique très bien. Et Oppenheimer, à un moment donné, il n'est même plus dans la logique ou dans la morale. Il est uniquement... C'est un savant qui veut prouver que son invention fonctionne. Et le film prend une dimension, là, je pense, à ce moment-là, assez tragique, qui est illustrée, du reste, par une scène magnifique où on voit tous ces Américains qui sont là en train d'agiter leur petit drapeau et qui sont super contents parce qu'ils viennent de tuer 200 000 personnes. Et où lui, il leur fait un discours galvanisant. Et en même temps, il a cette espèce de vision d'une victime carbonisée. Et j'ai trouvé que cette scène était très forte et elle illustre bien le film. Et je pense que, effectivement, pour moi, l'intérêt au moment de ce film, il est là. Il est dans ce débat moral entre la science et la conscience et la morale. Et après, effectivement, j'ai trouvé que pour une fois, Nolan, qui d'habitude essaie de construire des films où il se la joue un petit peu, où il emberlificote des fois un petit peu trop ses histoires, ses temporalités. Comme tu disais, là, j'ai trouvé que le film, malgré les retours en arrière, malgré tout, est quand même très lisible, très simple dans sa lisibilité.
Oui, contrairement à Tenet,
voilà, je pense que le spectateur peut très bien suivre l'histoire. Historiquement, je pense que c'est assez juste. Tout est bien montré, bien construit historiquement. Les acteurs sont très bons. Esthétiquement, effectivement, Nolan, on sait que c'est un réalisateur de talent. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un bon film qui crée une vraie réflexion historique, morale, et qui a des résonances, effectivement, comme tu le disais, encore à notre époque, dans le débat moral qui soulève sur les armes, sur le nucléaire. Et effectivement, et surtout, effectivement, c'est un film de 3h10 où on ne s'ennuie pas et où, effectivement, on est même presque surpris de sortir du film en se disant « Ah ouais, c'est fini ». Voilà, donc déjà, ça prouve que c'est une réussite. Et c'est bien aussi qu'un cinéma grand public, avec quand même un minimum d'intelligence et de qualité, existe à côté d'un certain cinéma d'auteur et d'un cinéma plus grand public. Voilà. C'est bien qu'il y ait encore une marge pour ces films-là, et c'est bien qu'ils fonctionnent en salle. Même moi, je suis surpris du succès du film.
Oui. J'ai une question à vous poser. Est-ce quel est le regret qu'il a eu d'avoir été au bout? Tu en parles très bien du savant qui va au bout de son invention, quelles qu'en soient les conséquences. Est-ce que ça, c'est mis dans le scénario?
Est-ce
qu'il s'interroge un moment sur...
Oui, dans le final du film, dans le dernier tiers du film, il y a clairement cette question-là de Oppenheimer, parce qu'à un moment, on voit, il voudrait avancer, il voudrait quand même, notamment face à un président américain qui le traite comme une merde, hein, qui lui dit en gros c'est bon maintenant c'est les militaires qui s'en occupent. Hein. Du reste il y a quand même ce moment extraordinaire où on le dépossède de sa création. En gros on lui dit mais on va même pas te tenir au courant du lancement de la bombe et tout ça. T'es hors du jeu maintenant. Et il y a ce président américain qui lui dit mais t'es une mauviette. En gros il lui dit ça, t'es une mauviette parce que tu viens nous dire qu'il faut peut-être quand même qu'on ait un regard moral là-dessus.
Et avoir des états d'âme.
Voilà, il faut peut-être qu'on ait des états d'âme. Mais ça va, tu fais nous pas rigoler. Voilà, donc il y a vraiment cette dimension-là. Et j'ai trouvé que le film, effectivement, pour moi, un des intérêts majeurs du film, c'est quand même que Nolan a eu l'intelligence de poser ce débat-là. Et ça, ça donne au film une dimension supérieure, à mon avis.
Là, on est dans une émission de cinéma, on ne va pas faire une émission d'histoire. Tu dis, la guerre aurait pu être gagnée sans la bombe atomique.
Tout à fait.
Effectivement, c'est un débat qui a été ouvert.
Oui. Mais en tout cas, c'est la position de Nolan et de ses scénaristes dans le film.
Parce que je signale qu'en... Enfin, tu le sais bien, il y a eu deux bombes. Donc, une bombe n'a pas suffi.
Oui. Bah, une bombe n'a pas suffi. C'est ce que on dit les chefs militaires. Voilà. Après, c'est justement, mais je pense que le film invite au débat. sur ce sujet-là.
Ah, mais il n'y a pas eu le temps de réaction, en fait, des Japonais. C'est que deux bombes, oui, c'était vraiment pour montrer la puissance des États-Unis et pour mettre un point final à cette guerre. Mais ils n'ont même pas laissé le temps aux Japonais, en fait, de prendre conscience de la situation. Il n'y avait pas les mêmes outils à cette époque-là qu'aujourd'hui, en termes de communication. Enfin, c'est... Bon, mais effectivement, on ne va pas parler d'histoire et on est là pour parler de cinéma.
On a quelques autres films à aborder.
Mais on va peut-être faire une petite pause musicale pour les auditoristes et pour qu'il y ait autre chose que de la parole. Et donc, pour cette première pause, je vous propose d'écouter un morceau de la bande originale du film Oppenheimer qui a été composé par Ludwig Göransson. Et puis on se retrouve donc tout de suite après. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et on vient d'écouter un extrait de la bande originale du film Oppenheimer, composé par le grand Ludwig Göransson. Et donc, retour au studio, on va passer donc au film suivant qu'on aimerait, qu'on va chroniquer. Et eh bien,
on va... À toute seigneur avec un E, tout honneur.
Tu m'as explosé l'oreille.
Excuse-moi Céline, je ne contrôle pas toujours ma voix.
Et bien donc, on va parler de la Palme d'Or cannoise, donc qui a été donnée au film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, qu'on a vu tous les trois.
Et donc c'est le quatrième film quand même, Justine Triet.
Oui, quatrième long métrage. Qui veut commencer? Et je vous laisse la parole.
Je commence.
Ok. Vous disputez pas.
Je commence. Anatomie de la chute, Palme d'Or à Cannes, deuxième Palme d'Or pour une réalisatrice française en 3 ans, quand même. Hein, il faut le noter. Il a été claironné comme un peu partout que c'était un chef-d'œuvre absolu. Hein, on l'a entendu au moment du festival. Une unanimité critique incroyable. Il faut peut-être se calmer un tout petit peu par rapport à ça. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un excellent film. À aucun moment, j'ai pensé que c'était un chef-d'œuvre. Moi, je pense que c'est un excellent film. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment très, très intéressant dans ce film. C'est... Le débat central du film, c'est effectivement ce délitement d'un couple. Et effectivement, c'est cette façon qu'a Justine Triet de nous dire effectivement que dans un couple qui est à égalité, on va dire, puisque c'est deux intellectuels, deux écrivains, comment dans un couple qui devrait être équilibré, dans un couple qui s'aime, puisqu'elle nous prouve à plusieurs reprises dans le film que ce couple s'aime, comment... À un moment donné, il peut y avoir un point de bascule. Comment il peut y avoir une sorte de point de non-retour où un ensemble de phénomènes négatifs vont mener ces gens à une violence verbale, dont on sent qu'elle pourrait devenir physique, et comment on bascule effectivement Même si, effectivement, la symbolique est peut-être un peu épaisse par moment, mais de la chute, effectivement, de cet homme à la chute de ce couple. Voilà. Après, il est clair qu'elle a pris quelque chose de plus conventionnel qui est cette histoire de procès pour illustrer son propos et qu'on se dit effectivement que peut-être qu'il aurait fallu qu'elle fasse un film carrément psychologisant sur ce couple plutôt que développer toute cette histoire de procès, mais telle qu'elle. Moi, je trouve que le film est quand même d'une grande sobriété. Le scénario est quand même remarquablement construit. Les acteurs sont tous très bons, notamment Sandra Hüller qui porte le film et qui est quand même remarquable. Et puis, donc, il faut saluer le travail de Justine Triet et de son compagnon Arthur Harari, qui est aussi réalisateur et scénariste, notamment de
qui est co-scénariste sur le film.
Co-scénariste.
Là, il n'a pas réalisé.
Voilà, mais qui dans la vie est aussi réalisateur. Notamment du très brillant Onoda, 10 000 nuits dans la jungle.
Et
de Diamant Noir. Et je pense que c'est aussi intéressant de savoir que ces deux-là ont écrit ce film sur le couple à quatre mains. Et je trouve que, voilà, pour moi, le film a. L'intensité de ce film naît de cette introspection, de cette analyse qui est, à mon avis, assez. Qui est scalpélisante. Voilà. Et donc. Voilà, moi c'est un film quand même qui m'a mis une charge d'intensité quand j'en suis sorti, mais je suis sorti en me disant c'est quand même pas non plus ce grand chef-d'œuvre qu'on m'avait vendu auparavant. Voilà, c'est mon avis. Céline.
J'enchaîne. Eh bien, moi je suis pas aussi. Pour moi, c'est un excellent film, vraiment, vraiment un excellent film, et avec une palme vraiment méritée, même si c'est difficile de le dire vu qu'on n'a pas vu tous les films de la sélection officielle de Cannes. Mais c'est vrai que oui, c'est la dissection d'une relation de couple, oui, mais pas que quand même. C'est aussi comment la justice, en fait, comment la justice fonctionne et comment la justice peut être subjective et avec des experts qui peuvent surinterpréter des situations. Mais c'est, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir cet aspect-là, comment c'est organisé. Et puis il y a pas d'artifice, effectivement, comme tu dis, c'est brut, c'est, il y a pas de musique juste à certains instants très précis, mais c'est très 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 épuré. Et aussi parce que elle utilise Justine Triet utilise vraiment la technique du documentaire aussi pour être proche de la réalité, avec une caméra épaule, avec des mouvements de caméra, des légers flous, qui donnent aussi cette sensation de d'être dans cette réalité. Et je trouve qu'elle cherche en fait à interroger la notion de vérité dans un procès, et c'est ça que je trouve aussi très intéressant. C'est pas que cette relation de couple, même si oui, c'est la base de l'histoire, mais toute cette mise en scène qui est immersive et oppressante aussi par les gros plans, c'est, on est dans ce tribunal, on est jury, nous spectateurs et spectatrices, on suit toute l'enquête, et je trouve qu'elle je trouve qu'elle arrive aussi à casser des clichés avec des personnages qui ne sont pas du tout manichéens, en fait, où, comme tu dis, ils sont tous les deux écrivains. Et en fait, c'est ici où c'est le personnage de Sandra, donc, enfin, joué par Sandra Hüller, qui est jugée en tant que femme aussi parce qu'elle mettra en priorité sa carrière d'écrivaine ou parce qu'elle trompe son mari avec des femmes. Enfin, mais sauf que, ben oui, et alors, c'est pas, ça en fait pas quelqu'un de coupable. Mais c'est ça qui, je trouve que c'est intéressant, tout ce qu'elle peut aborder dans ce film. Et puis comment on tente de comprendre, comme leur fils aussi, qui est un très bon jeu d'acteur, ce jeune comédien, je ne sais plus son nom, Milo, je ne sais plus, pardon. Et ce fils qui fait le choix de croire malgré des doutes, en fait, comme nous, en fait. Je trouve que c'est vraiment intéressant à tout point de vue. Donc, je trouve que c'est...
Bah après, je suis d'accord avec toi, hein, Céline. Globalement, Je pense que c'est un très grand film, hein. Franchement, je suis sorti en me disant c'est un très grand film. Globalement, je suis assez d'accord avec toi sur effectivement la sobriété, cette précision de la mise en scène et les débats et les idées que ça soulève. Voilà, ce fait, c'est qu'effectivement, ce que j'ai voulu soulever, c'est que on est dans une époque maintenant où on a tendance à nous survendre entre guillemets beaucoup de films. Et là, effectivement, je pense que peut-être que ce film-là était un peu survendu au moment de Cannes, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un très grand film et que Justine Triet, je pense qu'elle a, là, elle franchit un cap évident par rapport à ses trois premiers films qui étaient déjà de très bons films. Et là, elle franchit un cap et ça donne vraiment envie de voir ce que va donner la suite de sa carrière. Et puis effectivement, c'est quand même très très bien que même si on a l'impression que le Cannes essaye de se rattraper de 60 ans d'absence des femmes au palmarès, mais voilà, on peut que se réjouir d'une deuxième palme, et en plus française, en 3 ans. Claude, on t'écoute.
Oui, alors, vous avez à peu près tout dit. Moi, je suis... c'est un grand film. C'est un film au scénario extrêmement bien écrit, au cordeau, chirurgical pratiquement. Et c'est un film de montage. Ce que je regrette dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma, vraiment de cinéma. Alors je sais ce que tu vas me répondre, Céline, et je te dirai ce que j'en pense. Il y avait beaucoup plus de cinéma dans Sibylle, beaucoup plus. C'est effectivement, on dissèque la vie d'un couple à travers une chute et à travers un procès. Et moi, d'abord, je pense que c'est l'histoire d'un couple qui n'aurait jamais dû être ensemble, déjà, pour commencer. Et ensuite, ce qui est important, ce qui est mis en exergue, et d'ailleurs le fils dit une phrase importante que je n'ai pas relevée, c'est que c'est toute la difficulté de traduire en paroles, parce qu'on est dans un tribunal et qu'il faut parler. On n'est pas sur les faits, il faut les retraduire. Toute la difficulté de traduire en parole des faits ou des sentiments qui ont été vécus, voilà, 4 ou 5 ans et qu'on doit retraduire 4 ou 5 ans après. D'ailleurs, c'est là où l'avocat général s'engouffre là-dedans pour effectivement poser des questions avec beaucoup d'interprétations. Beaucoup d'interprétations, ce que ne relèvent pas d'ailleurs les protagonistes. Donc, le fils dit à un moment... Le tribunal va devoir faire un choix en dehors de la vérité. Ce n'est pas la vérité qui va faire le choix. C'est ce qui a été dit précédemment ou le sentiment que les gens ressentent. Bien. Donc, c'est bien sûr un film... alors, quand je dis qu'il y a un excellent montage, mais c'est aussi un film qui est une réflexion sur la perception des choses. Et je me souviens d'un étudiant en BTS en mécanique qui m'avait dit un jour, je l'interrogeais, je ne sais plus trop quoi, il me dit, monsieur, je sens la chose, mais je n'ai pas les mots pour le traduire. Alors d'abord, ça crée de la violence. Et là, on est dans ça. On est là-dedans là. Qu'est-ce qu'il entend, le trait ? Qu'est-ce que veut l'avocat général ou la présidente ? Qu'est-ce qu'elle veut entendre ? Elle veut entendre des paroles. Elle ne veut pas voir un film. Elle ne veut pas voir des sentiments. Elle veut entendre. Et toute la difficulté de traduire ses propres sentiments et ses propres faits. C'est ça qui me semble être mis, pour ne pas parler de la même chose que vous, en exergue dans ce film.
Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, Claude, sur la perception des choses. Parce que je pense que justement, c'est un film, mais tu vois, comme certains films de Bergman, qui s'est beaucoup interrogé là-dessus, sur le couple et tout, c'est vraiment un film, effectivement, comme tu disais, sur la manière dont on perçoit les choses, dont on essaye de les dire, et sur ce moment aussi où la perception des choses, et notamment entre deux personnes qui forment un couple, à quel moment cette perception devient une dissonance. Et je pense que c'est de ça qu'elle parle,
oui,
Justine Triet. Et tu vois, il y a cette scène d'ouverture du film, Céline, où il couvre son dialogue en mettant de la musique de plus en plus fort. Et je trouve qu'il y a toute une partie du film qui est résumée là-dedans, parce que exactement à ce moment-là, on est dans une des deux personnes qui crée une dissonance avec l'autre, et que cette dissonance, elle ne pourra plus se réduire, elle ne pourra plus ne pas exister. Elle est là et elle ne bouge, elle ne partira plus. Et je trouve que du coup, ouais, ta réflexion sur la perception est très très intéressant.
Et justement, je trouve qu'elle est très intelligente là, justement, Justine Triet, dans la mise en scène. C'est que le couple là, on ne sait pas comment ils se positionnent réellement parce que les mots ne sont pas dits. Mais nous, en tant que spectateurs et spectatrices, on interprète déjà là. On interprète les choses de comment elle peut réagir ou comment nous, on pourrait réagir dans cette situation. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dès ce moment-là, on va commencer à juger. Et sans que les mots soient dits, en fait. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et effectivement, je suis d'accord aussi avec toi, Claude. C'est la perception des choses. Et dans un procès, je ne pensais pas que c'était aussi possible. Et je trouve qu'elle l'a bien, vraiment bien mis en scène. Je trouve que c'est vraiment intéressant.
En tout cas, allez le voir. Hein. Vous ferez votre opinion, vous aussi. Allez le voir parce que c'est quand même la Palme d'Or. Et puis que voilà, c'est un film. Même si on a quelques petites divergences d'opinion, certaines choses, on est quand même tous globalement d'accord sur le fait que c'est quand même un grand film.
Alors, je voudrais revenir sur deux choses que vous avez dit, notamment sur est-ce qu'il y a du cinéma. Dans ce que tu as dit, la musique qui monte et qui couvre, ça, on est dans le cinéma. C'est un effet cinématographique, mais de montage. Et tu m'as cité, pas ici, mais en dehors, tu m'as dit aussi, c'est intéressant ce que tu disais, si tu t'en souviens.
Oui, effectivement, sur la scène où on écoute leur dispute, hein, dispute où il y a la partie réelle, où elle nous... Là, c'est la seule partie où justement qui est filmée parce qu'il l'enregistre à son insu lors d'une dispute. Et au moment où on revient au tribunal, c'est au moment où ça commence à être violent. Et juste en écoutant l'enregistrement, on interprète là aussi quelle violence et on surinterprète parce qu'on ne sait pas qui frappe l'autre.
Et on ne sait même pas s'il y a vraiment des coups.
Et on ne sait même pas. On sait même pas, effectivement.
Tout est interprétation dans la vie.
Les experts vont donner leur version. Et c'est terrible. Alors qu'ensuite, elle va donner la version, a priori, de la réalité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que... Et je trouve que... Alors, tu dis que c'est dans le montage, effectivement.
Mais je suis d'accord avec toi.
La mise en scène est aussi
dans
le
cinéma. Mais c'est du cinéma d'effet de montage.
Et alors
j'ai pas dit...
Et même dans la mise en scène, je trouve qu'il n'y a pas que dans le montage. La première scène dont tu parlais aussi, Gob, sur le tout début avec la musique qui monte, là aussi, c'est intéressant sur le l'arrière-son et de comment l'entretien va s'interrompre. Enfin, ça aussi, tout est mis en scène. Et c'est d'une simplicité, en fait. Elle fait ça très simplement.
Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas, allez-y.
Oui, on parle beaucoup, du coup, deuxième pause musicale. Et justement, ce morceau qui démarre dans ce film, on vous propose de l'écouter. C'est une reprise de 50 Cent de son morceau Pimp du groupe Bacao Rhythm, un steel band. Et donc, on écoute et on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Orléans. Et vous êtes donc toujours sur Radio Campus Orléans et on vient d'écouter un morceau. Pardon, le deuxième morceau commençait à partir. Voilà, on vient d'écouter un morceau du film de Justine Triet. Anatomie d'une chute qui est encore au cinéma. N'hésitez pas à y aller car c'est un film vraiment, vraiment bien qui est très, très bon. Et on continue donc dans les chroniques des films. Et Gob, toi, tu souhaitais parler d'un film ?
Oui, je voudrais parler rapidement de deux films et je vais en parler très rapidement parce que je sais, Claude, que tu peux parler du Catherine Breillat et ça serait bien qu'on parle aussi du film japonais, Céline. Donc le premier film, je vais être très, très, très rapide, c'est un film qui me tenait à cœur, c'est Le Dernier Voyage du Déméter. C'est un film d'un réalisateur norvégien qui travaille à Hollywood depuis quelques années, qui s'appelle André Ovredal. Et moi, ce film me tenait à cœur parce que vous savez, je suis un grand fan de cinéma de genre, on en a parlé tout à l'heure avec l'Étrange Festival. Et Le Dernier Voyage du Déméter, en fait, il est parti de 8 pages sur les 500 et quelques du roman Dracula de Bram Stoker. Et ces 8 pages, elles concernent le moment où Dracula, le comte Dracula, quitte la Transylvanie pour aller en Angleterre parce qu'il a flashé sur la compagne de Jonathan Harker qu'il retient prisonnier dans son château en Transylvanie. Et donc, c'est le voyage de ce bateau qui emmène le comte Dracula sans savoir qu'ils ont le vampire à bord. Et effectivement, on sait très bien qu'il va tuer tout l'équipage. Et le tout est de savoir comment ça va se passer. Moi, j'ai trouvé que c'était une vraie bonne série B. C'est efficace. Le monstre, le vampire, est vraiment montré comme un monstre sanguinaire et vraiment effrayant. Et il y a quelques scènes chocs. C'est très bien mis en scène. Et moi, franchement, c'est une série B où j'ai pris mon pied. Sauf une petite réserve sur on va dire la toute dernière partie du film qui m'a déçu, mais j'aime pas révéler les histoires, donc je ne vous en dirai pas plus. Et l'autre film, c'est Reality. Est-ce que tu peux me retrouver le nom de la réalisatrice, Céline, parce que j'ai un petit trou, on dira après. Alors c'est le film d'une jeune réalisatrice américaine qui est partie d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a fait fuiter des éléments qu'elle travaillait pour la NSA et elle avait eu un mail qui concernait les écoutes russes pendant la campagne de Trump, la première campagne de Trump, et la manière dont les services secrets, en tout cas le bureau de campagne de Trump, s'était entendu avec les services secrets russes pour discréditer Hillary Clinton. Et donc elle arrive et cette femme donc se retrouve devant chez elle appréhendée par des agents du FBI et on voit cette montée en tension où en fait le film est basé complètement et intégralement sur ce qui a été enregistré par les agents du FBI de son interrogatoire et on voit la manière dont ces gens en fait au début sont très affables, prennent en compte ces animaux, essayent d'être extrêmement, même trop affables avec elle et donc petit à petit ils vont arriver à lui faire avouer ce lancement d'alerte qu'elle a fait. Et il faut savoir que cette femme a quand même été condamnée à 5 ans de prison, qu'elle en a fait presque 3, qu'elle est en libération conditionnelle, mais qu'elle est avec un bracelet électronique et que l'arrivée au pouvoir de Joe Biden n'a absolument rien changé à l'affaire. Elle est toujours et c'est une femme dont la carrière est ruinée définitivement. Voilà, donc c'est un film très intéressant à voir parce que il dit des choses assez importantes sur cette grande et belle démocratie américaine. Et donc vraiment, vraiment un film très, très intéressant. Voilà.
Eh bien, effectivement, tu donnes envie. C'est un film de Tina Satter.
Voilà, merci.
Je ne connais pas. C'est peut-être un premier film. Ouais. D'accord.
Alors, je vais être bref sur les deux films dont je vais parler parce qu'ils viennent juste de sortir et un qui n'est pas encore sorti. Mais je vous engage à aller le voir. J'en terminerai sur le film de Justine Triet où, quand je travaillais, je travaillais avec un consultant dont la femme avait un haut poste dans la magistrature française. Elle avait dessaisi d'ailleurs le juge Jean-Pierre, sur une pute trop qu'elle a fait. Ça m'avait glacé ce qu'il m'avait dit. Monsieur Boulet, n'ayez jamais affaire à la justice française. N'ayez jamais affaire à la justice française. Ça m'avait glacé. Donc, je vais vous parler du film de Catherine Breillat, Dernier été. Alors là, j'ai été extrêmement surpris parce que pendant tout ce film, j'ai pensé effectivement au film de Justine Triet pour les qualités du scénario. Là, on a un scénario qui est au cordeau. Vraiment. Et Catherine Breillat ne m'avait pas habitué à ça. Elle sait filmer. Je me souviens de certains films où il y a des grands moments de cinéma chez elle. Mais elle avait... C'était pas d'une rigueur extrême, en général, c'est scénario. Et là, j'étais très étonné d'un scénario. Alors, c'est l'histoire, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment les féministes vont s'en tirer, d'ailleurs, dans ce film. C'est l'histoire d'une femme qui est avocate et qui a une histoire amoureuse avec son beau-fils, c'est-à-dire le fils de son mari qui vit avec son père et chez eux. Voilà. Bon. Donc, elle se trouve... Et en plus, elle intervient dans l'inceste, chez des pères incestueux. Donc, elle se trouve confrontée. C'est pas de l'inceste. C'est ce qu'a vécu Woody Allen. C'est sa belle-fille, c'est pas sa fille. Pas pareil.
Ouais, mais bon. Oui.
Non. Là, on est dans le même cas.
On va pas parler
de
Woody Allen.
Non, mais on est, je dis, je vais écouter les féministes sur ce film. On est dans la même situation, sauf qu'on inverse. Là, c'est une femme et pas un homme.
Oui, mais là, tu parles d'un film. Hein.
Comment ?
Tu parles d'un film, là, Woody Allen.
Oui, mais tu veux des carrières, parce que j'en connais.
C'est la vraie vie. Bon. Mais...
Ensuite, ce qui est important, c'est que. Bon, c'est l'histoire donc d'un dérapage. Et ce scénario, mais il est d'une très, très grande maîtrise. Avec des acteurs, Léa Drucker est vraiment au top. Et je me suis dit, mais Catherine Braillat, quand même, elle n'est pas habituée à ça. Et je vais vous lire quelques commentaires. Mais c'est le remake d'un film danois qui est sorti en 1999, peut-être. Donc c'est quand même beaucoup plus facile, et j'en dirai plus longuement quand vous le rêvez, c'est quand même beaucoup plus facile de partir d'un film qui a déjà été fait, de l'améliorer autre, que de partir d'une feuille blanche. C'est ça que je voulais dire.
Oui, il y a des remakes qui sont...
Comment ?
Il y a des remakes ratés aussi. Hein, donc
oui, il y a des remakes
ratés. Des fois des meilleurs.
Et parfois meilleurs. Oui, mais il y a
on sait très bien que Catherine Braillat est très intéressée par la transgression, et pourquoi pas d'ailleurs. Et là, moi j'ai trouvé que c'était un film très très maîtrisé. Hein.
Après, c'est une réalisatrice dont on sait très bien, et sa carrière le prouve, qu'elle aime les sujets scandaleux, qu'elle aime faire scandale.
Mais elle a le droit.
Non, mais j'ai pas dit qu'elle n'avait pas le droit, Claude.
On sait que c'est son
domaine, donc c'est évident qu'un
scénario... Louis Malle l'a fait aussi. Hein,
oui, c'est pour ça qu'un scénario comme ça ne pouvait que l'intéresser. Moi, j'attends de voir...
Mais j'aimerais bien voir le film danois.
De voir comment elle a traité ça et s'il y a quand même quelque chose d'intéressant en termes de regard moral et voilà.
C'est ce que j'attends du cinéma aussi. C'est vraiment l'histoire d'un dérapage. Oui. Ça dérape un soir. C'est l'histoire d'un dérapage. Oui. Alors ça, le dérapage, il n'est pas trop fouillé. Mais comment
Les répercussions.
Alors là, moi, à chaque fois, je me disais, mais attends là. J'étais avec ma femme, je me dis, mais attends, comment elle va se tirer du scénario ? Quelle va être la prochaine confrontation ? Et là, elle s'en tire vachement. Ce film est totalement crédible. Elle n'est absolument pas dans la caricature. Elle n'est pas dans le graveleux. C'est vraiment très, très maîtrisé. Et je me dis à chaque fois, comment elle va terminer ? Comment ça va se terminer ? Et là, Léa Drucker, je ne dirais pas ce qu'elle fait, mais c'est quand même très, très, sur le plan, très, très, très intéressant. Le deuxième film dont je voudrais parler rapidement, qui est le film de Yolande Moreau, La fiancée du poète. Alors, si vous avez du temps, vous voulez passer pas un trop mauvais moment, vous allez le voir, il y a beaucoup de poésie. Film qualité française, vous l'avez vu, c'est bien, vous ne l'avez pas vu, c'est pareil.
Oui, elle n'avait pas fait de film, Yolande Moreau, depuis celui qu'elle a eu à...
Elle a fait des films, Yolande Moreau.
J'ai l'impression qu'elle n'avait pas fait de film depuis celui qu'elle a eu le César, il y a bien des années de ça, maintenant. Comme réalisatrice.
Oui, la Joséphine, non. La peintre, là.
Ça, c'était pas elle, elle n'était pas réalisatrice.
C'était les frères...
Quand la mer monte, voilà. Il semble qu'elle n'avait rien fait depuis comme réalisatrice. Et ça remonte quand la mer monte, quand même.
Oui, moi, je n'ai jamais trouvé aussi bonne qu'avec... Hormis les des chiens.
À vérifier.
Je n'ai jamais trouvé aussi bonne que chez Kerven et Delépine.
Mais en fait, en tant que réalisatrice...
Elle est très...
La fiancée du poète, c'est son quatrième film. Ah, oui, et quand la mer monte, c'est son premier.
C'est le premier, d'accord.
Et elle a réalisé... Henri, je sais pas, j'ai pas vu, et puis un documentaire nulle part
d'accord,
en France.
D'accord. Alors, tu vois,
Michel Grasset, qui n'est pas présent, mais qui était présent à la projection, m'a dit, elle se met quand même beaucoup en scène, tout le film autour d'elle. Oui, c'est vrai, mais bon.
Mais donc tu dis que c'est plutôt.
Ça c'est
le privilège des grandes des grosses personnalités.
Voilà. Mais moi, je dirais, moi, c'est...
Yolande Moreau est une grosse personnalité.
Exactement. Mais tout est la difficulté d'être metteur en scène et actrice. Voilà. Ça,
Oui, c'est pas simple.
C'est toujours une très grosse difficulté.
Et ce serait pas un film de cinéma, d'après toi, en tout cas.
Comment ?
Ce n'est pas un film de cinéma.
Si, c'est un film de... Si, il y a des moments de cinéma. Il y a beaucoup de moments de poésie. Si.
Disséminer.
Mais dans la... j'allais dire, je fais aussi... J'observe qu'il y a, comme le disait Xavier, beaucoup de films qui sortent. Et je veux dire que c'est dans les films qu'il y a en ce moment, c'est peut-être pas la priorité d'aller voir ce film. C'est ce que je voulais dire. C'est pas un mauvais film, c'est même un bon film. Mais je veux dire, c'est gentillet. Donc, je pense qu'il y a des films plus importants à voir en ce moment.
On va parler d'un autre film, la franco-japonaise, c'est La beauté du geste de Miyake. Qui est un film inspiré de la vie de la boxeuse japonaise Keiko Ogasawara, qui a la particularité d'être sourde. Je suis allée le voir parce que toi, Gob, tu l'as vu et je suis contente de l'avoir vu. Je suis plutôt surprise. C'est le premier film de ce réalisateur qui est diffusé en France.
Oui, parce qu'apparemment, il en a déjà fait un certain nombre de films. Oui, j'ai lu ça. Et c'est le premier qui sort en France. Ouais.
C'est ça, tout à fait. C'est un personnage féminin qui est plein de nuances, qui vit donc avec une surdité et qui montre que notre société est non inclusive et validiste et qui est difficile à vivre pour les personnes qui ne rentrent pas dans la norme avec le devoir d'en faire plus. Parce qu'on voit vraiment cette réalité. Et c'est un film qui prend son temps d'observer son environnement, la gestuelle, la répétition. C'est filmé en 16 mm. Moi, j'ai beaucoup pensé au documentaire de Wiseman, Boxing Gym, qui donne aussi la même ambiance sur les détails de la salle de boxe, les sons, l'ambiance, l'esprit familial qui a peu de moyens, mais qui et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment bien filmé. C'est un film avec très peu de dialogue qui accentue aussi la réalité des quotidiens d'une personne malentendante. Je crois que c'était bien amené. Et cette boxeuse qui devient pro ne fait pas tout ce travail d'entraînement pour la boxe, mais pour elle-même en fait. Et je trouve que c'est ça aussi intéressant de voir que l'objectif du film n'est pas la victoire sportive, mais l'impact des obstacles de la vie. Et puis aussi, j'ai lu aussi dans un article, et je trouve que c'était très intéressant de faire le rapprochement avec le film Rocky d'Avidsen qui était tourné en 76 et qui utilise aussi la métaphore sportive pour parler d'une population marginalisée dans notre société qui est très très hostile. Voilà, merci Gob, vraiment belle découverte.
Moi j'ai beaucoup aimé le film. Tu parlais de Rocky. Moi, j'ai pour une fois, tu vois, des fois, je parlais de la manière dont on vend les films tout à l'heure. Le film, il a été vendu. Moi, j'ai lu plusieurs fois un croisement entre Ozu et Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Et pour une fois, j'ai trouvé que c'était plutôt juste. Parce qu'effectivement, il y a le côté Million Dollar Baby, enfin, effectivement, cette histoire avec cette femme qui a un handicap et qui se construit aussi dans son itinéraire sportif et personnel avec ce mentor qui l'aide à se construire aussi, à se reconstruire. Et ça, j'ai trouvé que c'était deux. Et Ozu, parce qu'effectivement, il y a ce côté, c'est du cinéma asiatique, c'est du cinéma japonais, comme tu disais, qui prend son temps. Qui insuffle de la poésie, qui sait construire des personnages sur la durée. Et c'est vrai qu'il y a un vrai charme dans ce film. Et l'interprète y est pour beaucoup parce que cette femme, elle est très très attachante. Et comme tu disais, elle a un parcours difficile et elle se construit à la force du poignet, si on peut dire. Et quelque part, oui, on en a vu énormément, notamment dans le cinéma américain, ce genre de film, un héros, une héroïne qui part effectivement de avec des handicaps ou des difficultés sociales ou physiques ou psychologiques et qui se construit. Et effectivement, comme tu le disais, je pense que ce qui est très juste, c'est que dans ce film, c'est ce qui importe le plus, c'est pas effectivement d'arriver à une victoire sportive, c'est d'arriver à devenir un être humain qui s'accepte, qui s'épanouit et qui arrive à donner du sens à sa vie. et quel beau message, quoi. Voilà, c'est pas très original, mais c'est dit avec beaucoup de sincérité. Et voilà. Et puis moi, c'est vrai que j'aime ce cinéma asiatique. Donc, mais je suis ravi que le film t'ait touché, Céline.
Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Voilà, c'était la reprise. Moi, il y aura un autre film, mais bon, là, il n'y a pas assez de temps, mais je voulais quand même. Je crois que je parle de Barbie, quand même, que je suis allée voir.
Et dis-nous un petit mot sur Barbie.
Mais la prochaine fois, dans deux semaines, voilà.
Et aller voir le film de Catherine Braya, qu'on puisse en discuter.
Oui, aller voir tous les films qu'on a pu discuter ce soir.
Bien que certains ne sont plus à l'affiche, hein, notamment les deux dont j'ai parlé, malheureusement, ne sont plus à l'affiche. Le Déméter et Reality. Mais bon, vous pourrez les rattraper.
Autre. Hein.
Il y a tellement de moyens de diffusion pour rattraper les films.
En tous les cas, merci, Céline, excuse-moi, oui. Parce que je pensais à autre chose, je voulais dire juste deux mots. Merci Céline. Et,
merci à vous deux.
Je parle d'une chose qui est importante dans le cinéma, c'est la grève. Et on ne savait pas la répercussion que peut avoir à l'heure actuelle, même en France.
Oui.
Il y aura des répercussions de toute façon.
La grève des scénaristes
aux États-Unis,
américains, oui. Notamment avec l'intelligence artificielle et ChatGPT. Et ChatGPT, moi, je leur ai donné une idée de scénario et ils m'ont tiré un scénario. Je veux dire que là, on pourra en discuter.
Oui, ça mériterait aussi une.
Il y a des choses
de
quand même à.
Du reste, à ce sujet-là, je vous recommande de vous pencher sur le dernier Télérama. Il y a un article très intéressant sur la grève justement des scénaristes et
des acteurs et des actrices,
des actrices à Hollywood et sur la manière dont certains grands studios extrapolent déjà effectivement sur certains logiciels d'intelligence artificielle qui pourraient remplacer effectivement des scénaristes. Voilà.
Eh bien, ok, on ira lire.
Ça mérite un vrai débat, hein.
Oui. Ah, mais bien sûr, Claude. C'est juste qu'il nous reste juste une minute et on ne va pas pouvoir lancer le débat. Mais juste pour teaser juste les auditeuristes, dans deux semaines, vous nous retrouverez donc pour reparler de cinéma et je vous parlerai de Barbie. Voilà.
Oui.
Et qui sera encore à l'affiche.
Certainement, parce que ça marche quand même plutôt bien. Mais quand même rester sur Radio Campus Orléans car mercredi prochain c'est l'autre équipe consacrée au cinéma qui reprend aussi l'émission et nous dans deux semaines et bien je vous souhaite de passer une bonne soirée.
Et merci Céline pour la technique.
Une fois de plus
c'est grâce à toi qu'a lieu cette émission.
Et merci à vous d'être là parce que ce serait pas pareil et c'est super de pouvoir échanger autour du cinéma. Et voilà les dernières secondes. Eh bien, merci
bye bye
encore.
Et n'oubliez pas d'aller au cinéma.
Allez au cinéma, il y a plein de films à voir.
Et en plus, s'il fait très chaud, c'est climatisé.
Des fois trop.